Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Rachel Thomas, ou Rachel Thomas, la députée conservatrice à Ottawa, a offert ses excuses pour avoir exigé d'une ministre francophone, Pascal Saint-Onge, des réponses en anglais. On analyse l'affaire avec nos hommes sur l'autre colline à Ottawa, Guillaume Saint-Pierre et Raphaël Pirot du Journal et du Journal. Ensuite, c'était jour de témoignage devant les parlementaires de Michael Sabia, PDG d'Hydro-Québec. Mon collègue Nicolas Lachance du bureau parlementaire a suivi ça toute la journée. Il sera avec nous en direct à la fin de l'émission. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix.
Émotionnel ou rationnel? Rationnel. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
Bonjour Guillaume Lavoie.
Antoine Robitaille, bonjour.
Expert en politique publique et bouton de manchettophile. Hey, tu exhibais aujourd'hui, Guillaume, sur tes réseaux sociaux, un bouton de manchette écossais.
Ouais, oui, parce
ça
que
t'arrive souvent d'exposer tes boutons de manchette.
Ah, moi, je m'expose tous les jours. J'en ai tous les jours, du moment qu'il y a une connexion avec le lieu, la ville, l'occasion. Puis aujourd'hui, c'est la St. Andrews, qui est le jour national de l'Écosse, des Écossais et ceux qui les aiment. Alors, bon. En leur honneur, on a porté leurs fleurs. Nous, c'est le lys. Eux, c'est le chardon.
Une des nations du Royaume-Uni, d'ailleurs. Et dans le Parlement, ici, on retrouve le symbole floral de chacune des nations de l'Angleterre, c'est-à-dire du Royaume-Uni, plus, évidemment, la fleur de lys. Mais écoute, on a assez parlé. Maintenant, je pense qu'il faut passer à l'analyse sportive de la période de questions. Ton premier point, Guillaume, ça peut être s'inventer des statistiques. Hein? Ça arrive dans le sport qu'on s'invente des statistiques. Mais ça, c'est arrivé aussi à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Ah oui, Antoine. Et c'était un échange. C'était l'échange initial entre le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, qui questionnait François Legault, en gros, qui commence à peu près toujours de la même manière. Ça a été relevé par le premier ministre Legault que c'était un mauvais gouvernement, qu'il y a un gouvernement qui ne livre pas, etc. Par contre, Marc Tanguay a dit quelque chose qui, je pense, là, si on creuse, là, ça pourrait être prometteur pour l'opposition. Les actions du gouvernement étaient très claires pendant la pandémie. Mm-hmm. Et depuis que la pandémie est finie, depuis qu'il n'y a plus de crise omnubilante, personne ne comprend vraiment c'est quoi l'étoile polaire du gouvernement. Où est-ce qu'il s'en va? Qu'est-ce qu'il veut accomplir?
C'est bien dit, oui.
Là-dessus, c'est pas clair là, où s'en va le gouvernement. Ben justement, Antoine, écoutons la question relevée par Marc Tanguay et la réponse du premier ministre. Et je vais avoir quelque chose, une observation là-dessus. Puis c'est ça qui réfère aux statistiques pour lesquelles on prend peut-être crédit. Là.
Durant leur premier mandat, le premier ministre n'a pas géré le Québec. Il a géré la pandémie. Là, il a son premier mandat. Il va dire mon deuxième mandat. La première année, on voit le fiasco. Aucune vision. 50 perdus. Ni la pénurie de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, on voit les grèves qui touchent la santé, l'éducation, le secteur public. C'est son échec. Vous aviez dit, jugez-nous sur les résultats. C'est autant d'échecs.
Les salaires ont augmenté plus vite au Québec que dans le reste du Canada puis qu'en Ontario. Ça n'arrivait pas, ça, avec les libéraux.
Alors, Guillaume, il y en a un qui dit, c'est autant d'échecs. Puis François Legault répond, ben les salaires augmentent plus vite. Alors qu'on est au pouvoir, plus vite qu'en Ontario, et ça n'arrivait pas chez les libéraux.
Oui, et ça, là, moi, ça me fait penser à certains rapports annuels de trucs de l'État, là, qui sont de l'occupationnel, qui, à la fin, là, se dépêchent là, d'écrire leur rapport, puis là, ils prennent le crédit pour la météo. Là. Hein, cette année, il a fait telle température. Moi, il faudra qu'on m'explique le lien entre l'action gouvernementale et la hausse des salaires. Peut-être que ça peut être vrai pour les employés de l'État. Sinon, ça n'a pas le début du commencement d'un lien avec l'action du gouvernement, là. À moins qu'on parle du revenu disponible si le gouvernement baisse les impôts. Mais les salaires ne décident pas de payer les gens plus cher ou moins cher selon quel gouvernement est au pouvoir, là.
Ouais, c'est
pas comme ça. On pourrait davantage expliquer tout ça par, encore une fois, Antoine, la démographie. Il y a la population active diminue par rapport au nombre d'emplois, mais ça fait une pression à la hausse sur les salaires. Alors ici, peut-être que le premier ministre prend le crédit un peu large pour des statistiques qui ne sont peut-être pas les siennes.
Deuxième jeu à analyser, tu appelles ça un jeu incomplet. Et c'est entre Gabriel Nadeau-Dubois et le premier ministre encore.
Oui, et ici, Gabriel Nadeau-Dubois mettait le doigt sur quelque chose qui est à la fois fondamental, triste, préoccupant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens dans les banques alimentaires. Et il dit, il y a des gens qui ne gagnent pas assez, sinon ils ne seraient pas dans les banques alimentaires. Puis il fait un lien avec le salaire minimum, mais lui-même s'en détache assez vite. Écoutons-le d'abord, puis après ça, je vais te dire comment moi j'ai entendu ça.
Est-ce qu'il trouve ça normal du monde qui travaille à temps plein puis qui vont avoir besoin cette année pour la première fois d'un panier de Noël pour fêter Noël? C'est quoi le salaire que ça prend, selon lui, au Québec, en 2023, pour vivre comme du monde puis fêter Noël?
Ben, tu vois, Antoine, ici, on a encore peut-être un cas où Québec solidaire met de l'avant une vraie préoccupation sincère, bien ancrée, mais comme un peu coincé dans son argumentaire qui est la solution à tout, c'est d'augmenter le salaire minimum.
Oui, ils sont rendus à 20 $ là.
Et là, c'est ça, ils l'augmentent sans arrêt, mais poussons la logique plus loin.
C'est-à-dire qu'ils veulent l'augmenter à 20 $ oui.
Oui, non, c'est qu'au début, ils demandaient 15, là, ils demandent 20.
C'est ça.
Mais au-delà de ça, moi, je pense que c'est un indicateur qui est incomplet. Parce que, comme dirait mon grand-père, qui avait une deuxième année de B, qui était un saint homme, il disait, Guillaume, c'est pas l'argent qui rentre, c'est l'argent qui sort. C'est insuffisant de réfléchir le salaire comme étant un seul axe. Il n'y a pas juste les revenus dans la vie, il y a les dépenses aussi. C'est pas la même chose au salaire minimum une mère monoparentale qu'un étudiant qui est au cégep. Là. Ils gagnent le même salaire, mais ils n'ont pas les mêmes dépenses.
Ben là, le premier ministre a répondu, le salaire minimum, c'est bien beau, mais il y a des étudiants qui travaillent au salaire minimum dans les dépanneurs. Ça veut dire qu'eux vont perdre leur emploi si on monte ça à 20 $ de l'heure.
Oui, puis à la limite, une théorie, le marché a rapidement payé plus que le salaire minimum, justement parce qu'il y avait une pénurie. Mais prenons le temps de dire, Antoine, là, qu'est-ce qu'il en est du salaire minimum et du Québec? Écoute, en 2013, il y avait 194 000 personnes qui travaillaient au salaire minimum. En 2022, presque 10 ans plus tard, il y en a 32 000 de moins. Donc, si le salaire minimum, c'est notre indicateur de vulnérabilité, supposément, il y a quand même 32 000 personnes de moins là, qui le gagnent. 60 % de ces gens-là, c'est des jeunes entre 15 et 24 ans. Bon, moi, quelqu'un qui travaille 5 heures semaine chez McDo au salaire minimum, là, c'est pas exactement la même chose que la mère célibataire.
C'est ça.
63 % des gens au salaire minimum sont à temps partiel. Alors, en gros, là, puis, si tu veux, la statistique, moi, qui m'a le plus surpris, elle vient de Luc Godbout, de la chaire de fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Le nombre de travailleurs au salaire minimum est au plus bas depuis 15 ans. Alors ici, ce n'est pas la réflexion sur le salaire minimum qui est la bonne manière d'éradiquer la pauvreté ou pourquoi on a des enjeux dans les banques alimentaires. C'est d'essayer d'aider les gens en fonction de leurs revenus et de leurs responsabilités. Parce que là, l'étudiant de cégep dans le sous-sol de chez ses parents, ce n'est pas lui qui est la personne là, qui est à plaindre. Là.
Ben non.
Alors, on a un bon phénomène à creuser. Mais l'omnibilance du salaire minimum comme seule mesure pour penser ce débat-là est trop restrictif, puis franchement, c'est un peu un carcan qui ne nous permet pas de voir les véritables problèmes.
Bien. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a comme une fixation sur cette solution-là à Québec solidaire, puis je lisais des vieilles transcriptions de points de presse de 2008 l'autre jour, quand il y a eu le premier élu de Québec solidaire, Amir Kadir, puis il y avait la même revendication, mais là, on voulait que ça soit monté à autour de 10 $ En tout cas, les temps changent.
Hein. Tu sais, Antoine, si tu me permets,
oui.
Il y avait toute cette campagne-là a émergé beaucoup des États-Unis, les syndicats américains qui faisaient la bataille pour 15 $ de l'heure.
Oui, monsieur.
Et là,
ben
je
oui.
fais pas un débat.
C'est devenu un fétiche.
Mais là, ici, je ne veux pas faire un débat sur est-ce que c'est trop cher ou pas assez cher. C'est la logique de la chose. À salaire égal, 15 $ de l'heure au Québec, 15 $ de l'heure aux États-Unis, tu es bien plus précaire et mal pris aux États-Unis parce que ouais. Le filet social est loin d'être aussi généreux.
C'est
alors,
ça.
Peu importe le chiffre, se coller sur un parallèle américain parce que ça cadre dans une campagne politique dans laquelle on peut s'inscrire. C'est déconnecté de comment évaluer la précarité
ouais.
chez nous versus ailleurs.
C'est une américanisation aussi de nos débats. puis des solutions. Tu sais, quand on suit tellement les débats aux États-Unis qu'on en vient à plus voir notre réalité, c'est un problème. Passons maintenant au jeu révélateur avec Paul Saint-Pierre Plamondon, selon toi.
Oui, Antoine, c'était une question de Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois qui disait ben nos artistes, les artistes québécois, les artistes francophones en particulier, ben on les entend de moins en moins, ils arrivent de plus en plus avec difficulté à vendre le produit de leur création, que ce soit musique mais aussi comme dirait ma mère, idiovisuel, parce oui. que maintenant, on est sur des plateformes en ligne.
Mais
Spotify,
oui.
Apple, puis on peut même mettre Netflix là-dedans. Et la grande question, c'est, au départ, la CAQ avait dit, ben, pour régler ces problèmes-là, on va récupérer les pouvoirs de culture du fédéral. Alors, question de Paul Saint-Pierre Plamondon, vous en êtes où? Aux dernières nouvelles, le fédéral n'est pas dans la, n'est pas tellement en ligne pour transférer des pouvoirs aux provinces ou au Québec. Mais c'est le grand débat à savoir, est-ce qu'il faut aller vers des plateformes québécoises de, un Amazon québécois, un Spotify québécois ou autre, ou il faut penser à autre chose? Et là, là-dessus, le premier ministre a mentionné un peu l'ensemble des possibilités, mais en se gardant une porte ouverte. Écoutons-le.
Moi, je serais le premier, là, que ça soit dans un Québec autonome dans le Canada ou un Québec indépendant, à souhaiter, dans un monde idéal, avoir notre propre plateforme. D'être capable de dire, ben on a un Spotify québécois, on a un Netflix québécois. Je vous invite à aller écouter le balado avec Pierre Curzi. C'est un sujet que j'ai discuté avec lui. C'est un sujet qui a été regardé par les gouvernements précédents. Je pense que la meilleure approche, c'est plutôt de donner des incitatifs financiers, d'aider davantage. Hein?
Je remarque aussi qu'il a cité son propre balado avec Pierre Curzi. Ça aussi, c'est de la culture en ligne.
Oui, et lui aussi, il veut faire monter dans l'algorithme parce que tout ça, c'est de la dictature d'algorithme. Oui,
c'est
ça. Il y en a qui disent la solution, c'est d'avoir un Spotify québécois, des plateformes québécoises de tout, là, Netflix québécois, etc. Un Amazon québécois, on se souviendra du succès intermondial du panier bleu.
Oui.
Hein, on peut sortir de ça, là. Moi, je pense qu'on a beaucoup plus à gagner à faire de ce que j'appelle du encadrer afin de mieux permettre.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais.
C'est-à-dire, on ne peut pas encadrer ce qu'on n'est pas prêt à permettre, puis on ne peut pas permettre ce qu'on n'est pas capable d'encadrer. Il faut faire du judo avec la puissance des algorithmes. Puisque okay. l'enjeu, c'est les algorithmes pour voir nos produits en haut de la page,
mm-hmm.
ou pour qu'on nous les suggère, puis pas seulement suggérer des produits canadiens, parce que là, ça nous enlève, la culture francophone n'est pas nécessairement là, bien, il faut négocier avec les plateformes en disant, elle est où au nom de l'exception culturelle qu'on utilisait pour la publicité canadienne dans les magazines, par exemple, d'avoir des suggestions qui sont proprement de culture québécoise.
Mm-hmm.
Ça, c'est la négo à faire avec Netflix, avec Spotify, avec Apple Music et les autres. Et là-dessus, si j'avais des dollars à investir, ce ne serait essentiellement que là, outre de subventionner les créateurs. Parce que subventionner les créateurs pour qu'ils puissent déposer leurs trucs sur une plateforme où personne ne va aller, c'est pas plus intelligent. Là. Alors ça, c'est un...
Ben, au moins, si on enseignait à l'école, je sais pas, la chanson québécoise, si on faisait voir ou découvrir des œuvres québécoises... de documentaires ou à la télé. Je pense que l'école a un rôle à jouer aussi. Là. L'école, ça résiste à l'industrie culturelle où ça devrait être un peu à part.
Ben, là-dessus, tu sais que c'est un peu ce qu'on avait fait dans il y a plusieurs des formes de l'éducation que je déteste, mais il y en a une où, à un moment donné, on a dit ben, c'est bien de lire des auteurs français, mais il va falloir lire des auteurs de chez nous. Puis là-dessus, soit on se dirige tranquillement vers Noël, on va se faire, Antoine, dans cette chronique, des recommandations de choses à lire,
ah ben oui.
ou à écouter, ou à voir, pour mieux comprendre notre histoire, mieux la célébrer. Puis au pire, on commencera à la maison, pendant le temps des fêtes, en pyjama, pour espérer tranquillement se ramasser sur les bancs de l'école.
Merci beaucoup, Guillaume Lavoie, et on se reparle lundi prochain.
Au plaisir.
Salut, merci.